Jean Rigal, une mémoire, 9e. Une émission présentée par Joël Causse avec la participation de Roger Lajoie-Mazin. Après la trêve des confiseurs qui est de tradition en politique, nous reprenons cette série de causeries avec Jean Rigal qui évoque ses souvenirs d'élus du peuple. Nous l'avons quitté en 1983 après une élection municipale remportée sur les listes Trébost et Peloux. La municipalité s'était mise au travail en le faisant savoir par des bulletins et aussi avec une conférence, au moins une conférence de presse. Il y en a eu peut-être plusieurs, mais il y en a une qui a fait beaucoup de bruit. Et les projets sont nombreux. Nous en ferons le bilan à la fin du mandat quand nous préparerons les municipales suivantes de 89. Donc il y a quelques polémiques dans ce mandat concernant la construction de la sécurité sociale. L'arrivée aussi en face de la grande distribution, c'est 85 que Leclerc s'installe. L'installation de Leclerc, aussi l'installation des mousquetaires et puis aussi l'agrandissement de Bravo. Alors le député est sollicité, lui, à Decazeville, dans le bassin, où il y a des problèmes concernant la vieille montagne. Il y a un certain nombre de licenciements, la mise en place de l'association Sauvons le bassin. Voilà, donc bonjour Jean Rigal et meilleurs vœux pour cette année 2010. Bonjour Roger Lajoie-Mazin.
Bonjour. Bonjour et meilleurs vœux à vous tous et également à tous les auditeurs de CFM.
Alors, par quoi vous voulez commencer? On continue par les municipales?
Oui, très 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 volontiers. Oui. Je pense que vous avez évoqué le grand nombre de projets que nous avions, dont certains étaient fort importants. Et puis, vous avez parlé en particulier d'une polémique début 85, c'était en mois de janvier, je pense, lors d'un conseil municipal, à propos de la construction de l'immeuble de la sécurité sociale, qui jusque-là était logé dans des bâtiments préfabriqués, qui étaient dans l'ancienne cour, l'ancien jardin de feu l'Hôtel Dieu, hein, remplacé par la place qu'on a appelée la place André Lescure. Alors, effectivement, nous avons été sollicités pour donner le permis de construire à la Sécurité sociale, la Caisse primaire d'assurance maladie, qui souhaitait construire un immeuble en dur pour loger ses services. Et le terrain lui appartenait. La commune, par une convention avec la Sécurité sociale, devait récupérer ce qui a été fait en définitive, ce que la Sécurité sociale n'utiliserait pas, mais il fallait l'accord de la Sécurité sociale.
Oui, un point de détail, la démolition de l'Hôtel Dieu, ça s'est opéré à quel moment et sous quelle impulsion? Parce que ça a été reproché un petit peu la perte de...
Oui, alors certains voulaient, ouais. Mais ça remontait déjà loin. Hein. Ouais. Certains auraient souhaité garder ce bâtiment, et d'autres auraient souhaité en faire autre chose. Hein.
Il a été rasé.
À ce moment-là, il a été rasé, et la commune s'est réservée un emplacement pour stationnement, la sécurité sociale ayant de quoi bâtir ses locaux et ayant de quoi assurer son propre parking, notamment pour ses personnels. Hein. Il m'a été reproché donc de mal avoir défendu les intérêts de la commune face à la sécurité sociale. Je pense que la sécurité sociale, c'est tout de même une institution qui peut et doit même être respectée par les communes. Ce n'est pas le monde des affaires et encore moins le monde de la mafia. Donc, très logiquement, on a passé cet accord que certains m'ont reproché avec vigueur au cours notamment d'un conseil municipal début janvier 2005.
85.
85, pardon. Et j'ai expliqué que il était plus que temps que la sécurité sociale puisse s'implanter d'une manière normale et pas seulement d'une manière précaire comme elle était jusque-là. Et bon, je me suis permis un certain nombre de mises en boîte humoristiques visant des personnes en fonction de leurs caractéristiques personnelles ou professionnelles, comme j'aime bien le faire. Voilà.
Voilà. Oui, donc l'affaire est retombée d'elle-même, et puis la sécurité sociale s'est construite. Ça a été achevé vers quelle année à peu près là,
Je pense assez
rapidement.
Un an et demi, deux ans, ouais. Ça a été terminé. Ouais.
Donc voilà pour la polémique de la sécurité sociale. Mais dans le même temps, donc on est en début 85, et il y a l'apparition de la grande distribution, mais alors qui arrive avec comme un rouleau compresseur, ouais. avec Leclerc qui dit pas son nom au début,
voilà,
à Billois.
Voilà.
Et puis Intermarché qui demande l'autorisation, enfin qui s'installe là où c'est qu'il est actuellement. Alors là, il y a eu quelques réunions, mais la mairie ne pouvait pas faire grand-chose. Il n'y avait pas d'autorisation.
Non, on ne pouvait pas faire grand-chose, sinon refuser un permis de construire, qui aurait parfaitement pu, d'ailleurs, une décision qui aurait parfaitement pu être déférée au tribunal administratif par les demandeurs. Moi, je n'ai pas apprécié du tout la manière cagoulée, masquée, avec laquelle sont arrivés Leclerc et en degré moindre Intermarché, qui s'est installé dans l'ancienne carrière du four à chaud au-dessus de l'avenue du Quercy. Mais en ce qui que je me souviens d'avoir dit souvent dans mes réunions, qu'on avait vu entrer sur le terrain une équipe portant des survêtements habillois, et qui, au moment du coup d'envoi, avait retiré les survêtements, et le sponsor des maillots de jeu, c'était tout simplement Leclerc. Voilà. Et ce n'est pas du tout apprécié, cette façon de procéder.
Oui, parce que le projet qui était avancé par Abilois, c'était une jardinerie ou quelque chose
oui,
comme ça.
Oui, c'était des matériels de loisirs, un peu comme il peut y en avoir dans certains magasins de Trigano, par exemple, en Andriki Trigano, des tentes, des matériels de camping, des choses comme ça. C'était présenté comme uniquement tourné vers le loisir.
Oui, mais le terrain, dans son ensemble, était propriété de la maison Hugonnet, je pense.
Non, il y avait plusieurs propriétaires. Il y avait la menuiserie Hugonnet, effectivement, qui en définitive a vendu à Leclerc. Il y avait également un grand terrain qui mesurait plus d'un hectare, qui arrivait jusqu'à l'avenue de Toulouse, la rocade, là, en bord de laquelle nous sommes, tout ça le long du ruisseau Notre-Dame, et qui appartenait à une personne âgée qui s'appelait Madame Treille. Et la commune était intéressée par ce terrain en totalité pour construire la salle des fêtes, puisque la salle des fêtes s'est construite par la suite à cet endroit-là. Et elle était également intéressée, la commune, pour avoir éventuellement des parkings et puis des réserves foncières pour faire autre chose. Encore que ce secteur était frappé d'inondabilité et qu'il ne pouvait pas être livré à la construction de maisons d'habitation. Et il fallait des ensembles à caractère collectif et avec des protections particulières. Et, hein, c'est ainsi que quand on a réalisé la salle des fêtes, qui a été opérationnel au printemps 88, eh bien, quand on a voulu réaliser la salle des fêtes, il a fallu faire des puits et des piles jusqu'à plus de 12 mètres pour avoir un sol relativement stable.
Oui, il n'y a pas eu de... Bon, Les deux terrains donc étant indépendants, la commune a acheté le sien, Leclerc a acheté le sien.
C'est pas tout à fait ça.
Voilà, oui, c'est pas, vous voulez savoir.
C'est pas tout à fait ça, parce que pour faire ces parkings, Leclerc avait besoin de plus que ce que lui cédait la menuiserie Hugonnet. Hein. Et ils ont acheté un morceau de terrain à Madame Treille. Hein, pour autant, la commune n'a pas payé plus cher la partie qu'elle se réservait.
D'accord. Donc voilà, Leclerc s'installe, Bravo s'agrandit, et Intermarché est là, et c'est un coup dur pour... un coup dur pour le centre-ville.
Bien sûr.
Qui le sent.
Bien sûr, ça a été le premier gros coup de la grande distribution sur Villefranche. Et l'extension de Bravo est la conséquence directe de l'installation des autres. Car chaque fois qu'un de ces grands commerces s'accroît, eh bien, les autres grands commerces. Estime, à tort ou à raison, probablement à raison d'ailleurs, qu'ils sont les premiers concurrencés et qu'ils doivent donc se mettre en position défensive, voire réoffensive.
Oui, ça, on l'a vu, on le verra par la suite.
On le reverra encore. Hein.
Ouais. Voilà, mais on va faire une petite pause avec Gainsbourg.
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes. Cette chanson était la tienne, c'était ta préférée, je crois. Quelle est de préférée, Cosma? Et chaque fois, les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Avec d'autres, bien sûr, je m'abandonne, mais leur chanson est monotone, et peu à peu je m'abandonne. À cela il n'est rien à faire, car chaque fois les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Peut-on jamais savoir par où commence et quand finit l'indifférence? Passe l'automne, vienne l'hiver, et que la chanson de Prévert, cette chanson, les feuilles mortes s'effacent de mon souvenir. Et ce jour-là, mes amours mortes en auront fini de mourir. Et ce jour-là, mes amours mortes en auront fini de mourir.
Voilà, cet hommage à Prévert par Gainsbourg. Donc le maire de la commune est sollicité localement. Mais le député va l'être aussi, puisque vous avez été réélu donc en 81. On est toujours dans la première législature du septennat de Mitterrand. Et de Cazeville continue à avoir ses difficultés à se reconvertir. Et la difficulté gagne aussi la vieille montagne. Vous êtes amené à intervenir. Peut-être Roger Lajoie-Mazin, là, est mieux placé que moi pour... pour parler des détails historiques.
Simplement pour poser les questions. Oui. 1981, c'est également la venue du Premier ministre, Pierre Mauroy, de Casseville, avec un certain nombre d'annonces. Il revient quelque temps après pour préciser pourquoi ces annonces n'ont pas été suivies des faits. Et donc, il y a une période triste pour le bassin, puisqu'il y a Villemontagne, il y a SSD, AMED, donc, et Vallourec, avec bien entendu des emplois qui sautent. Et donc, Jean Rigal, le député à ce moment-là, est fortement sollicité et dans diverses réunions avec les syndicats, les intersyndicales notamment, qui se bougent beaucoup pour essayer de faire des propositions.
Oui, c'est exact. Hein. Il est certain que le gouvernement de Pierre Mauroy avait sans doute fondé beaucoup d'espoir sur l'aménagement du territoire et sur les possibilités d'intervention de la DATAR avec, pensait-il, sans doute, la possibilité d'orienter des industries vers les endroits qui étaient le plus en crise. Et malheureusement, il est sûr que ça n'a pas marché comme il le souhaitait, et que les difficultés qui existaient, notamment dans la sidérurgie, ont continué et qu'il en est apparu au niveau de la Vieille Montagne. La Vieille Montagne a décidé, la Vieille Montagne qui était une véritable institution, hein, puisque cette entreprise essentiellement belge, qui était implantée sur Viviers depuis les années 1870, comptait encore environ 2000 salariés dans les années 1970, c'est-à-dire 100 ans après son installation. Brutalement, on a appris que la direction envisageait de fermer la production de zinc par électrolyse, qui était une des grandes parties de l'activité de la Vieille Montagne à Viviers, pour se contenter de ne garder qu'un laminoir pour produire des plaques de zinc, certaines d'ailleurs particulièrement élaborées pour faire des toitures, comme on en voit notamment dans la région parisienne, mais aussi ailleurs. Et ça a été une douche terrible, hein. J'ai encore relu dernièrement des articles à ce sujet, tout récemment, hein. Et c'est vrai que l'intersyndicale était très très solide, très active, et que elle a entrepris en s'appuyant en particulier sur moi, notamment pour obtenir des rendez-vous, pour les accompagner, pour argumenter à l'Assemblée nationale ou au cours de certaines réunions avec les services de l'État, auprès du ministère de l'Industrie aussi, pour argumenter, et avec eux j'ai fait de multiples réunions, y compris d'ailleurs auprès des dirigeants de Vieille Montagne à Paris, et aussi dans les ministères, en particulier le ministère de l'Industrie. Et en définitive, il n'y a pas eu de retour en arrière par rapport aux décisions qui avaient été prises par la direction, à notre grande déception. Et finalement, la Vieille Montagne Viviers, elle s'est repliée sur sa partie laminoire, tombant à quelques 300 et quelques salariés. Bon, par la suite, la Vieille Montagne, consciente du coup très dur qu'elle avait porté au bassin, a contribué à ce qu'on a appelé l'essaimage, hein, c'est-à-dire que elle a participé à la création d'autres entreprises, dont certaines, dont la plupart même dirais-je, pas toutes, mais la plupart existent encore aujourd'hui. L'exemple type, c'est la Sopave, hein, qui traite des plastiques, et qui des fines plastiques, et qui livre des sacs à les sacs poubelles un peu partout. Hein.
Oui, donc le député, son rôle, en l'occurrence, ça a été surtout d'entremetteur, quoi.
De faciliter. Oui. Hein. Oui. Malheureusement, il n'a aucun pouvoir de décision. Oui. Hein, mais il est bon, je crois, que un parlementaire, à ce moment-là, soit en bonne relation avec les représentants syndicaux, avec une intersyndicale active, cohérente, et que l'on puisse mener ensemble des démarches, chacun prenant la parole auprès de ceux qui sont ses interlocuteurs naturels.
Et les autres élus de la région avaient mis en place un projet, une menace en tout cas, de démission.
Oui, 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 mais moi j'avais participé. Oui. J'avais participé. J'avais dit que éventuellement je remettrais en jeu, je renoncerais s'il le fallait à mon mandat de député. Hein, parce que je crois que si on est condamné à subir, il est clair qu'on ne sert à rien et qu'à ce moment-là, c'est d'ailleurs les mêmes raisons qui m'ont conduit à ne pas me représenter plus tard, en 1993. Hein.
Ça, on en reparlera.
Oui, oui, en temps utile.
Dans une prochaine émission. Je crois que là, bon, sur cette partie-là, on va s'arrêter avec une petite respiration. Arrêter Sidney Béchet pour avoir un petit peu de temps pour la question d'actualité. L'actualité qui nous a envahi dès le début de l'année, c'est, dont on a déjà parlé d'ailleurs, c'est la grippe A et puis c'est retombé.
Oui, bon, mais la grippe A est une maladie virale. Et je pense qu'on a un petit peu surestimé d'une part sa gravité et d'autre part sa capacité de contagion, hein. Et aujourd'hui, quand on parle de la grippe A, on parle surtout à ce monument de stupidité qu'est devenu la gestion de la communication sur ce dossier, hein. Depuis des mois et des mois, depuis plus de 2 mois, maintenant bientôt 3 mois, la ministre de la Santé, au demeurant très, très sympathique, Roselyne Bachelot, hein, nous expose des éléments tout à fait contradictoires, et comme chaque fois qu'elle s'exprime, il arrive le contraire de ce qu'elle dit, ou bien qu'il y a de fortes polémiques qui se lèvent, elle est obligée à d'ajouter autre chose pour rectifier, ce qui fait qu'on va allègrement d'ânerie en ânerie, et que on voit pas pourquoi ça s'arrêterait. Hein. Maintenant, on en est non plus à la gestion de la maladie, puis de sa vaccination. On en est à la gestion des vaccins, à la gestion du Tamiflu, à la gestion également des masques et des moyens de protection. Alors, on avait dépensé 660 ou 680 millions d'euros. Avec les masques et le Tamiflu, il semble que ça fasse beaucoup plus, que ça dépasse largement le milliard. Et puis, subitement, Roselyne Bachelot nous dit « Non mais attendez, mais on l'a pas payé tout ça, on l'avait commandé mais on l'a pas payé, donc on peut revenir en arrière, on peut même en revendre ». Moi, je serais ravi que demain matin, sur le marché de Villefranche, il y ait un stand où on puisse acheter du vaccin antigrippal. Enfin, on est tombé dans une ce que la communication peut entraîner de stupidité lorsqu'elle est poussée comme ça à l'excès et qu'on veut toujours présenter les choses. On ne veut pas informer. On veut présenter les choses sous un jour favorable. Hein, et au lieu de dire tout simplement la vérité, et on en arrive à n'importe quoi, hein, c'est devenu catastrophique.
Et le médecin dans tout ça, qu'est-ce que vous pensez de la grippe A, justement ?
Mais le médecin, moi j'ai pas d'éléments, j'ai pas de recul. Je suis plus dans le milieu médical d'ailleurs depuis longtemps, depuis plus de 13 ans, bientôt 14. Mais de toute façon, j'en ai discuté avec quelques-uns de mes confrères que je rencontre assez régulièrement et qui n'avaient aucune donnée au départ. Ils entendaient ce qu'on leur expliquait à la télévision, tout comme leurs patients.
Et votre position par rapport à la vaccination ?
Mais la vaccination, moi je ne me suis pas fait vacciner. Hein. Je ne me suis pas fait vacciner. D'ailleurs, je fais remarquer encore un élément de contradiction. Je fais remarquer que je n'ai rien reçu, alors que pendant très longtemps, la ministre de la Santé disait que il fallait surtout pas se présenter dans un centre de vaccination si on n'avait pas reçu un papier vous indiquant qu'on était parmi les sélectionnés. Mais bon, j'ai pas été sélectionné, j'y parlais.
Bon, une contradiction de plus. Voilà, on arrête ici cette émission pour aujourd'hui. Poursuivra la semaine prochaine, toujours dans cette période première municipalité de 83 à 89 où il y aura d'autres élections. Merci Roger Lajoie-Mazin, merci Jean Rigal. À bientôt.
Merci.